seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Si vous deviez qualifier la qualité de l'eau de l'Erdre.
Je la trouve meilleure que par rapport à quelques années, je crois. Mais bon, je ne suis pas un fin connaisseur. Mais moi qui me balade le long très souvent, je me rends compte qu'elle fait un peu plus propre. Mais bon, après, pour me baigner là-dedans, je n'irai pas. Ni dans la Loire.
Quand vous dites qu'elle fait un peu plus propre, qu'est-ce que ça veut dire?
Je la trouve un peu plus claire par moment. Alors après, je trouve qu'il y a peut-être moins de saleté dedans, moins de déchets peut-être.
Pour vous, une eau propre, c'est une eau claire?
Ah bah, je peux me tromper aussi, hein. Pour moi, clair, c'est propre, oui, mais bon, après, il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui puisse m'expliquer vraiment le truc. Mais après, pour aller me baigner là-dedans, puis à mon âge maintenant, il faut être plus jeune.
Pour éclairer Jean-Claude et nous éclairer sur ses notions de propreté, de qualité de l'eau, de santé écologique, interrogeons Yuen Fenard, directeur de l'EDEN, Entente pour le développement de l'Erdre navigable et naturel, un syndicat mixte chargé de coordonner la reconquête du bon état écologique de l'Erdre et de ses ruisseaux affluents.
Il ne faut pas confondre la qualité de l'eau avec la qualité des milieux aquatiques.
Oui, ça c'est un concept qu'on essaye d'expliquer régulièrement parce qu'il n'est pas forcément immédiat. Nous, l'EDEN, notre objectif, c'est de retrouver le bon état des milieux aquatiques. Et le milieu aquatique, c'est tout le territoire, c'est l'eau, c'est les berges, c'est les affluents, la biodiversité qui vit dans la rivière. Et dans cet ensemble, les milieux aquatiques, il y a la qualité de l'eau, telle qu'on la connaît, c'est-à-dire est-ce que l'eau est polluée ou pas. Mais l'approche est plus large que cette seule qualité de l'eau, même si la qualité de l'eau est un enjeu qui est important. Mais on a tendance à dire souvent qu'on pourrait avoir, par exemple, une rivière qui a dedans une eau de qualité parfaite, une eau de notre piscine, une eau potable. Et pourtant, ce serait une rivière qui ne serait pas forcément en bon état écologique parce que cette eau, même dans sa qualité parfaite, ne serait pas forcément le support d'une biodiversité ou d'une vie biologique normale parce qu'il pourrait, par exemple, y avoir des barrages qui empêchent la reproduction des poissons ou des berges canalisées qui empêchent la nidification de ces mêmes poissons, les micro-organismes de se développer, etc. Donc, c'est toute cette différence entre la qualité de l'eau. Enfin, c'est pas une différence, c'est toute cette complémentarité entre cette qualité de l'eau qui est elle-même une des indispensable de la qualité des milieux aquatiques, et c'est ce système global dont on recherche in fine la qualité.
Pensée locale, un enjeu de société.
Un mot à définir, l'eutrophisation.
L'eutrophisation, là encore, un concept qui n'est pas forcément complètement intuitif. L'eutrophisation, c'est un déséquilibre. C'est un cours d'eau qui va avoir trop de nutriments. Alors effectivement, on peut avoir tendance à dire, dans un jardin, plus il y a de nutriments, plus les plantes sont en bonne santé, plus les plantes sont grandes, etc. Cet équilibre, il n'existe pas forcément dans les rivières. Et si on a trop de nutriments, donc ces nutriments sont surtout l'azote et le phosphore, on va avoir des développements d'algues, des algues comme on l'entend, des macro-algues, des grandes algues, ou des micro-algues, des algues microscopiques, qui peuvent, suivant les quantités, finalement se développer très vite, et ou dans le cas des macro-algues, obscurcir complètement, c'est-à-dire le soleil ne va pas aller jusqu'au fond, et vous allez changer le fonctionnement de la rivière, et ou dans la vie biologique des plantes, ça consomme de l'oxygène et appauvrir complètement le milieu en oxygène. Donc l'eutrophisation, c'est ce phénomène lié à la concentration, à la surconcentration en nutriments qui dérègle et qui appauvrit finalement les milieux, là où on pourrait se dire qu'on les augmente. Elle revient vite, cette notion du propre, en fait, qui est bien compréhensible, mais qui n'est pas appropriée à ce qu'on cherche. Si on montre des photos d'un cours d'eau en bonne santé écologique et d'autres cours d'eau qui peuvent être considérés comme très dégradés, la question du propre va peut-être être beaucoup plus proche des cours d'eau tout droit, bien entretenus, bien dégagés, alors que pourtant, on ne considère pas ça des cours d'eau en bonne santé qui pourraient avoir des branchages qui sont dans l'eau, des bras morts avec une eau un petit peu stagnante, qui ne sont pas propres. Et donc, cette notion de propre, il faut savoir qu'elle existe, mais il faut un peu travailler avec et peut-être la déconstruire ou remonter aux sources pour reconstruire autre chose.
Jean-Claude, profitez du soleil. Et si vous vous baignez, il suffit de ne pas boire la tasse, c'est tout.
C'est fini, ça. Ah, on en discutera.
L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Frappe en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.
L'expertise de Yuen Fenard s'appuie bien évidemment sur des connaissances issues d'études menées par les scientifiques, parmi lesquelles le géographe Simon Dufour, enseignant-chercheur à l'université de Rennes 2. Joint par téléphone, il nous précise le cadre et la conduite de ses recherches.
Je travaille sur les cours d'eau, les rivières, plutôt en région tempérée en France, mais aussi un peu en région méditerranéenne. Et puis, je travaille beaucoup, en fait, sur le cours d'eau, mais sur ses relations avec tout ce qu'il y a à côté du cours d'eau, c'est-à-dire la berge, les zones humides, toute la végétation qui pousse sur les bords de berge, les relations, comment par exemple la végétation fait de l'ombre à la rivière, comment les inondations modifient la végétation. Et je regarde donc à la fois les aspects paysagers, j'étudie aussi comment on gère le cours d'eau, la zone humide, la végétation, comment on restaure aussi, que ce soit la restauration écologique avec des objectifs de biodiversité, mais aussi comment est-ce qu'on essaye de restaurer ces milieux-là pour gérer la ressource en eau. Et puis enfin, je travaille aussi sur les outils, les méthodes, les indicateurs, les technologies qui permettent d'étudier, de caractériser les cours d'eau, que ce soit par cartographie, par télédétection, par exemple avec des drones ou des choses comme ça. Donc un petit peu sur le volet méthodologique, comment est-ce qu'on peut produire des indicateurs qui vont aider à la fois les scientifiques et les gestionnaires à mieux connaître ces environnements qui sont un peu particuliers.
À quelle fin ?
Les principaux objectifs. Ça va être un objectif plutôt de restauration de la qualité écologique des cours d'eau. On sait que, par exemple, le fait qu'il y ait une végétation de berge et une répisylve en bon état le long du cours d'eau, ça va aider lui-même le cours d'eau à être en bonne qualité, que ce soit au niveau de la qualité ou que ce soit au niveau des habitats, de la faune, de la flore. S'il y a, par exemple, de la végétation avec des petites troncs d'arbres, des choses comme ça, ça peut favoriser, améliorer la diversité des poissons, des insectes, etc. Donc, il y a à la fois une vocation, enfin, un objectif final qui est plutôt l'amélioration de la qualité écologique du cours d'eau, au sens de la diversité des habitats, des espèces présentes, etc. Et après, il y a aussi un volet, moi je ne le mesure pas vraiment, mais plutôt sur la gestion de l'eau en général. Par exemple, quand on restaure une zone humide, évidemment ça va avoir des intérêts au niveau de la biodiversité, mais en fait ça va aussi jouer un rôle d'éponge accrue, donc ça va stocker de l'eau quand il y en a trop, ça va la restituer quand il n'y en a pas assez. Personnellement, moi, je ne mesure pas l'hydrologie ou la quantité d'eau, mais parfois, je participe à des projets où des collègues font ça pour voir justement sur les questions de quantité et de qualité d'eau dans les cours d'eau, comment ça se passe. Donc, c'est surtout ça, moi, c'est sur quoi je travaille.
Comment vous procédez au niveau de vos recherches et qu'est-ce qui vous autorise à penser que ou à penser à ?
Voilà, c'est une vaste question. Alors, comment est-ce qu'on travaille ? Donc, il y a plusieurs façons de travailler. En gros, moi, dans le domaine où je suis, il y a un peu trois types d'approches. Il y a d'abord, et c'est plutôt la majorité, des approches de terrain in situ, des mesures, des observations qui sont faites le long des rivières. Donc, je ne sais pas, par exemple, un endroit où on va restaurer un cours d'eau, c'est-à-dire en gros, le cours d'eau avait été modifié, transformé, dégradé, la diversité d'habitats n'était pas satisfaisante, la qualité de l'eau non plus. Il va y avoir un programme de restauration. Je ne sais pas, on va reméandrer le cours d'eau, c'est-à-dire on va lui redonner une forme avec des sinuosités, on va le refaire passer à l'endroit où il était historiquement, on va aussi le reconnecter à la plaine. Donc là, typiquement dans ce genre de situation-là, on va faire des observations de terrain avant. Donc je ne sais pas, on va regarder la forme du cours d'eau, on va regarder la diversité des habitats, on peut faire des relevés de flore, on va regarder les espèces qui sont présentes. Et puis après les travaux de restauration, on va revenir et on va refaire les mêmes observations. Et puis on va dire, si je compare avant, après les travaux, je vois qu'après les travaux, il y a telle espèce qui est revenue ou pas. Enfin, voilà. Donc, en fait, on fait une comparaison avant-après qui permet de conclure que l'action elle a été bénéfique ou en tout cas, elle va dans le sens de ce qu'on avait imaginé au départ. On peut faire la même chose en comparant aussi des sites qui sont aménagés avec des sites qui ne sont pas aménagés. Pour tester l'effet d'un aménagement. Par exemple, quand on a à un endroit donné, on a endigué la rivière, on va comparer un site qui a été endigué avec un autre site qui n'a pas été endigué. Et puis, on va, toutes choses étant égales par ailleurs, entre guillemets, on va essayer de les prendre les plus proches possibles, les plus similaires. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est endigué et pas endigué. On fait les mêmes mesures. Donc, encore une fois, on va compter les espèces végétales, on va éventuellement regarder la croissance des arbres, on va mesurer un certain nombre de paramètres biologiques ou aussi physiques de qualité de sol, et puis on va comparer. Donc c'est surtout par des approches comparatives. Après, il y a des collègues qui font plus de la modélisation, où là, ils vont dire, on va regarder comment se comporte le débit de la rivière en fonction des précipitations, et puis dans leur modèle numérique, donc une sorte de formule mathématique en quelque sorte, on va dire, si je replante des haies dans mon bassin versant, ça va modifier l'écoulement de cette façon-là, et le débit à la sortie, il va être modifié de cette façon-là. Ils vont vérifier sur des sites que c'est vrai, et puis après, leur modèle, comme ça, il leur permet de tester des prédictions. Et puis enfin, la troisième façon dont on travaille, on fait ces travaux-là de modélisation, d'observation, mais on les répète dans plein d'endroits différents, pour justement, quand vous disiez qu'est-ce qui nous autorise à dire ça. On va se dire, ben voilà, ça, j'observe que dans, je sais pas, on a regardé 100 études de restauration, et puis ben, il y en a 80% qui montrent que voilà le résultat auquel on arrive, et on va dire, ben voilà, si je regarde, dans la majorité des cas, en essayant de prendre, de vérifier que ça soit comparable, donc on va faire des analyses un peu bibliographiques ou des études de cas comparatives, où on va aller chercher auprès des collègues qui font le même type d'études à travers le monde, forcément à l'autre bout du monde, mais dans d'autres contextes, et on va essayer de comparer pour voir si ce qu'on observe, nous, sur des études de cas ponctuelles, c'est robuste ou si c'est un peu particulier. Et du coup, là, ça nous permet aussi de monter en généralité, de dire, voilà, ce que j'observe, moi, sur le bassin versant, ben, je ne sais pas, de l'Èdre ou de la Vilaine, est-ce que c'est particulier ou est-ce qu'au contraire, ce que j'observe, c'est assez commun à d'autres lieux. Et là, du coup, on se sent plus confiant à avoir des conclusions quand on voit que ce qu'on observe, c'est quelque chose que les autres collègues observent à d'autres endroits.
Quel impact a le dérèglement climatique sur votre travail et sur votre façon de penser ?
Alors, sur mon travail et sur ma façon de penser ?
Peut-être aucun.
Si. Ouais, c'est difficile. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Sur vraiment la façon d'étudier les choses, ça fait émerger quand même des questions scientifiques auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Par exemple, moi, je travaille beaucoup sur la végétation de la riquissée, au bord de la berge, le long du cours d'eau. Et historiquement, cet objet-là, il a toujours été considéré voilà, comme un objet bien alimenté en eau. Il y a de l'eau dans la rivière, c'est un objet qui est humide. Et clairement, on le voit là depuis une vingtaine d'années, il y a beaucoup d'études qui sont faites et qui montrent que bah, ça a beau être en bord de cours d'eau, que les effets du changement climatique, mais pas que, hein, d'ailleurs aussi les prélèvements de la ressource en eau par les barrages, par les pompages, font que ces milieux qui étaient très humides, ils deviennent plus secs. Et du coup, ça génère des nouvelles questions scientifiques, c'est de dire comment est-ce qu'un milieu qui est par essence un milieu humide, qui s'est constitué comme un milieu humide avec des espèces adaptées au milieu, comment il répond à des changements qui sont à l'échelle de vie d'arbres, qui sont des changements rapides en fait. Donc là, d'un point de vue de la façon de travailler, ça oblige quand même à se poser des nouvelles questions, notamment en termes de dynamique, de vitesse de changement, de capacité d'adaptation, de réponse, de la vitesse de réponse des systèmes écologiques à des changements qui sont finalement assez rapides. Donc ça, c'est une première chose que ça a changé dans notre façon d'étudier, de travailler là-dessus. Ce que ça a changé aussi, c'est que ça nous a obligés à réfléchir en termes de pression multiple. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de travaux faits dans les années 80-90 regardaient voilà, quel est l'effet d'un paramètre, par exemple, je ne sais pas, construire un barrage, voilà, l'effet du barrage sur la rivière. Et puis après, on va faire une autre étude, on va regarder l'effet de l'endiguement sur la rivière. Puis après, on va faire l'effet de la pollution sur la rivière. Et en fait, l'arrivée du changement climatique dans les années 90-2000, même 80, mais surtout 90, ça va vraiment obliger les gens à se dire, mais en fait, la rivière, elle n'évolue pas sous uniquement la pression d'un seul changement. Tout change, en fait. L'occupation du sol, les prélèvements en eau, les prélèvements de sédiments, les constructions, l'urbanisation, le changement climatique. Et en fait, ça nous a obligés à trouver des moyens d'étudier comment ces pressions-là, elles se combinent et quelles sont celles qui sont les plus déterminantes. Est-ce qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre? Est-ce que c'est le changement climatique? Est-ce que c'est la construction? Est-ce que c'est l'urbanisation? Et paramètre par paramètre ou espèce par espèce quasiment, ou question scientifique par question scientifique, ça nous a obligés à trouver des moyens d'essayer d'y voir plus clair dans quelque chose qui est très complexe. Le fonctionnement des écosystèmes, on a toujours su que c'était complexe, mais là, le changement climatique, ça a beaucoup, comment dire, influencé cette question-là, quoi. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a eu quand même un effet un peu de mode aussi, un petit peu là-dessus, de mode. C'est-à-dire que la question, elle a fait éruption, elle est devenue tellement structurante qu'il a fallu beaucoup travailler là-dessus. Et ça a presque été un peu comme une injonction à dire, voilà, il faut vraiment trouver les effets du changement climatique. L'aspect positif, c'est que ça nous a obligés à rajouter et à prendre en compte la complexité. Parfois, ça nous a amené un peu à oublier d'autres pressions, par exemple les changements d'occupation du sol, qui restent l'urbanisation, la mise en culture, qui restent les pressions parfois les plus importantes, par exemple sur certaines qualités d'eau, sur certains paramètres. Parfois, ça nous a amené un peu à les minimiser, enfin pas à les mettre de côté, mais à nous concentrer beaucoup sur le changement climatique et à parfois oublier un petit peu les autres. Mais bon, c'est un peu anecdotique là, ce que je raconte, parce que c'est pas si fort que ça. Mais ça nous a un peu obligés à repenser la façon d'étudier ces objets-là.
Merci à Yoann Fenard, directeur de l'EDEN, à Jean-Claude et à Simon Dufour, enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 2, pour leur libre participation à ce programme.
C'était L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de La Frappe en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.
À Un reportage de Michel Sourget pour Alternant FM.